L'évangile de Luc, au chapitre 18, au verset 1, rapporte que Jésus demande de toujours prier sans se décourager. Lors de ma dernière prédication, nous nous étions arrêtés sur la nécessité d'analyser la qualité de notre relation avec notre Dieu par la prière. Et je vous avais proposé une approche en trois points. D'abord, qu'il nous fallait déceler les obstacles que nous rencontrons, tant dans notre prière individuelle que dans notre prière collective. Deux, qu'il nous fallait créer les conditions favorables et nécessaires pour améliorer la qualité de notre relation avec notre Père Céleste. Et enfin, nous avions relevé quels étaient les bienfaits de la prière. Et nous avions noté que la prière, c'est comme la respiration de l'âme, mais aussi comme un volant d'automobile. Il nous guide et il ne faut pas le lâcher, qu'on soit sur l'autoroute ou sur une route escarpée de montagne, par exemple. J'avais aussi fait référence à la demande des disciples qui demandaient à Jésus de leur apprendre à prier. Alors peut-être qu'eux aussi avaient des difficultés pour prier. Et Jésus leur a donné cette prière magnifique que nous appelons la prière du Notre Père. Et je remarquais que si nous avions cette intimité de la rencontre dans un lieu secret avec notre Dieu, Jésus soulignait que nous nous adressons à notre Père céleste et que nous demandions que son nom soit sanctifié. Et que c'était sa volonté qui primait toujours sur la nôtre. Alors ce matin, je vous propose de reprendre cette prière parce que je ne suis pas sûr que tous ceux qui ont entendu le Notre Père, qui l'ont récité ou même prié, ont ressenti et ont pu réfléchir sur l'intensité de cette prière. Et donc ce matin, je vous propose de reprendre cette prière et comment nous pouvons la vivre. Lecture. De Luc au chapitre 11, les quatre premiers versets. Jésus priait un jour dans un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. » et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Puis un autre texte dans Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 13. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, un mot d'abord sur le contexte. Luc rapporte que Jésus répond à la demande de l'un de ses disciples. « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Les rabbins avaient élaboré donc des prières liturgiques et Jean-Baptiste avait probablement introduit une autre manière de prier. Jésus n'aurait-il pas aussi un autre modèle ? Dans l'évangile de Matthieu, le contexte est différent. Jésus donne ses instructions sur les pratiques religieuses que sont les dons, la prière et le jeûne. Et concernant la prière, Jésus oppose la ferveur et la sincérité à l'éloquence et dénonce la multiplication des paroles superflues. À la rhétorique des prières juives, il oppose la simplicité, à la prière longue, la brièveté. Donc le modèle que propose Jésus ne pouvait être plus dense et plus édifiant. Un mot sur la structure de la prière. Le Notre Père présente deux parties bien distinctes. La première concerne Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, le nom, puis le règne, puis la volonté. Et la seconde partie concerne les hommes, ses besoins, le pardon et sa protection. En fait, elle est un peu identique à celle des 10 commandements. Vous vous souvenez, Dieu d'abord, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, etc. » D'abord Dieu. Ainsi, Dieu doit toujours occuper la première place, comme l'affirme Jésus un peu plus loin au verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. Il y a quelque chose qui ne va pas si nous nous adressons à Dieu uniquement pour lui présenter nos problèmes et nos besoins, sans penser à qui il est et à sa gloire. Notre Père qui es aux cieux. Dès le début de la prière, nous sommes en présence de l'essentiel de la révélation de l'Évangile. Notre Père qui es aux cieux. Bien au-delà des concepts antérieurs dont la paternité de la divinité se limitait au pouvoir de création et d'autorité, Jésus nous fait entrer dans la plus glorieuse proximité établie par Dieu lui-même par son œuvre salvatrice. Dans l'Ancienne Alliance, Yahvé était déjà considéré comme père et invoqué comme tel, soit par une déclaration de Dieu lui-même, par exemple dans Jérémie 31, il dit « Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. » Ou soit par les prophètes. Exemple dans Ésaïe 63, verset 16. « C'est toi cependant qui es notre père. En effet, Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. » Il montre un esprit paternel en rachetant, en guidant, en protégeant, en éduquant son peuple élu. Ainsi, Dieu était davantage perçu comme législateur et juge dans la pensée des religieux juifs. Bien d'autres noms sont donnés à Dieu dans la Bible, et chacun souligne un attribut divin, une face de sa personnalité que nous verrons dans un instant. Cependant, il y a un nom excellent dont Dieu lui-même s'est attribué, que nous trouvons quelquefois dans l'Ancien Testament et surtout très souvent dans le Nouveau Testament, celui de Père. Jésus se déclare le Fils de Dieu, il l'appelle Père, avec qui il avait une relation unique. Matthieu 11, 27, « Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ainsi, par le Fils, nous sommes devenus ses enfants. Jean 1, versets 9 à 13. C'est le début donc du prologue de Jean. Au début était la parole était Dieu, etc. Et la parole était lumière. Cette lumière, donc Jésus, était la vraie lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, personne ne l'a reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Éphésiens 1. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Si nous croyons en Jésus, nous sommes donc devenus enfants de Dieu, enfants de Dieu, régénérés par l'Esprit Saint. L'apôtre Paul déclare aux Romains, chapitre 8, verset 14, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Notre Père, notre. Jésus disait « Mon Père et votre Père », signifiant que Dieu était le Père de nombreux enfants et en soulignant également la dimension communautaire. Le croyant peut-il de façon appropriée dire « mon père » en sachant qu'il est membre d'une grande famille? C'est d'ailleurs ce que nous chantons, n'est-ce pas? Nous faisons partie de cette grande famille. Peut-on s'approcher de Dieu notre Père en ignorant nos frères? Ou pire, en ayant de l'indifférence ou de l'inimitié envers eux? Nous avons été rachetés pour former le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, dont il est à la tête. Nous partageons notre foi et notre espérance, mais aussi nos joies et nos peines. Nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Romains 12, verset 16. Finalement, les termes « notre Père qui est aux cieux » nous aident à saisir la souveraineté de Dieu. Le ciel est son trône et la terre son marchepied. Ésaïe 66, 1. Ce Dieu si grand est devenu notre Père. N'est-ce pas merveilleux? Que ton nom soit sanctifié. Première requête. Oh, quelle grande et insondable requête, malgré sa brièveté, si l'on prie de tout son cœur. Aucune des sept demandes ne la surpasse. Ainsi s'exprimait Luther en commentant cette première demande. Donc plus importante que la suivante, que ton règne vienne, qui nous semble peut-être à nous plus concrète si on se place dans la perspective des besoins humains. Que ton nom. La Bible nous enseigne l'importance du nom qui détermine la personne. Dieu aussi a un nom. Il n'est pas le Dieu inconnu des Athéniens. Son nom révèle son identité. Parler du nom de Dieu revient à parler de Dieu. Psaume 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Alors, quel est son nom ? Dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu est présenté sous diverses formes parce qu'un seul mot ne peut pas désigner sa grandeur et la totalité de ses attributs. Dieu s'est révélé tout au long de l'histoire sous différents noms. Et le nouveau dictionnaire biblique relève que les noms donnés à Dieu dans la Bible disent ce qui est Dieu, ce que est Dieu. Ils le disent sans doute mieux que tous les commentaires qui peuvent être faits sur sa personne. On peut relever cependant qu'à l'époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y a une relation directe entre le nom et la personne. Une vénération toute particulière était due au nom de Dieu en Israël, car ce nom, objet du plus grand respect, était pour l'Israélite comme la personne même du Seigneur. Premier nom que nous trouvons dans la Bible, Elohim, le Dieu créateur. Elohim est dérivé d'une racine signifiant être fort, puissant. Ce nom du Dieu puissant convient particulièrement au Créateur de Genèse 1, où il est constamment employé. Il revient 2312 fois dans l'Ancien Testament. Le second nom, c'est Yahvé. C'est le nom le plus employé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, 6499 fois. Il est rendu en français par l'Éternel, appellation approximative du tétragramme en hébreu qui se présente sous forme de quatre lettres. YHVH ou YHWH. Un mot qui n'est pas prononçable. C'est le nom ineffable que les Juifs n'avaient pas le droit de prononcer. Ils le remplaçaient par Adonai, qui signifie Seigneur en français. C'est par Yahvé qu'il convient de rendre le tétragramme sacré en y mettant quelques voyelles pour que ce soit prononçable. D'après Exode 3 à 14, ce tétragramme signifie « celui qui est ». Vous vous souvenez certainement que Moïse, quand il est appelé, qui dit « mais quel est le nom que je vais donner au peuple pour qu'il sache ?» Et le Seigneur lui répond « Je suis celui qui suis. » D'après donc Exode, on sait qui il est. Il est. Et c'est Elohim, le Créateur, qui dit « Faisons l'homme à notre image. » Mais c'est Yahvé Elohim qui entre en contact avec l'homme dès que celui occupe la scène. Nous retrouvons ça dans Genèse 2, verset 7. Et d'autres expressions désignent effectivement Yahvé dans d'autres circonstances. Voilà la liste, hein, je vous fais grâce de toutes les références. Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. Yahvé Shalom, l'Éternel paix. Yahvé Ra, l'Éternel mon berger. Yahvé-Tsidkenu, l'Éternel notre justice, et aussi le Dieu Très-Haut, El-Eliam, le Dieu Tout-Puissant, El-Shaddai, le Dieu de l'Éternité, El-Olam, le Dieu vivant, El-Hai. Et nous chantons, tu Adonai Shama, tu entends et tu répondras. Et puis, un autre terme, l'Éternel des armées, un autre nom. Ce nom est synonyme de Créateur Tout-Puissant, de Dominateur Suprême, de Maître du Cosmos tout entier. Adonai, Seigneur ou Maître, il est utilisé 427 fois dans l'Ancien Testament. Il exprime la souveraineté de Dieu et par là le sentiment de dépendance de la créature. Exemple Moïse, effrayé du service auquel Dieu l'appelle, s'écrie « Seigneur, Adonai, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Et c'est l'Éternel, Yahvé, qui lui promet sa présence et son secours. Exode 4, 10, 17. Un autre nom, le Saint d'Israël, que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe en particulier. Ce nom exprime à la fois son ineffable pureté, son horreur du mal, sa haine du péché, ainsi que sa gloire, sa majesté, son élévation et sa grandeur suprême. La sainteté de Dieu est en relation intime avec sa jalousie, sa colère ou sa vengeance. Et enfin, nous venons de le voir, Père. Que ton nom soit sanctifié. Que peut vouloir dire sanctifié? Selon le dictionnaire, il y a trois possibilités. Un, rendre saint en état de grâce, ou attribuer à quelque chose un caractère sacré, noble, exceptionnel, le placer au-dessus de tout, ou révérer comme saint. Célébrer selon la loi religieuse, sanctifier le dimanche, par exemple. D'abord, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Que ton nom soit sanctifié. Cette requête ne signifie pas que le nom de Dieu doit être sanctifié parce qu'il ne l'est pas suffisamment. Dieu est saint de toute éternité, il n'y a aucun doute là-dessus. En langage plus courant, nous pourrions dire que l'on donne à ton nom l'honneur qui lui est dû, qu'il soit loué, glorifié et respecté universellement de façon suprême. Telle fut l'interprétation de nombreux pères de l'Église et des réformateurs. Calvin, par exemple, écrit « Là où Dieu est connu, il doit nécessairement y avoir une manifestation de ses perfections de pouvoir, bonté, sagesse, justice, miséricorde et vérité, ce qui produit en nous l'admiration et nous pousse à célébrer ses louanges. » Voici la substance de ce qui a été dit. Nous désirons que Dieu reçoive tout l'honneur qu'il mérite. Pour Luther, l'objet de la requête est que l'on recherche la gloire de Dieu avant tout, par-dessus tout et en tout. Pour quelle raison devons-nous demander que ton nom soit sanctifié? Malheureusement, nous constatons que dans notre monde, le nom de Dieu est moqué, maltraité, méprisé, ridiculisé. Le troisième commandement du Décalogue, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain » Exode 20, verset 7, est enfreint de multiples manières par le blasphème, les plaisanteries de mauvais goût et autres paroles, attitudes irrespectueuses à l'égard de Dieu. Comme le prophète, nous aussi nous pouvons dire « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures ». Priez que ton nom soit sanctifié. nous impose de nous interroger sur nous-mêmes et de vérifier si les aspects de notre vie ne déshonorent pas le nom de Dieu et de se repentir. Soyons plus que jamais attachés à sa parole qui est la vérité. Le nom de Dieu est sanctifié quand nous serons sanctifiés par sa parole. Jean 17, prière de Jésus pour ses disciples. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Le nom de Dieu est sanctifié lorsque nous reconnaissons et acceptons l'œuvre du Christ comme seule espérance du salut. Lorsque nous confessons nos péchés et implorons la miséricorde de Dieu en reposant sur les seuls mérites de notre Sauveur. Le nom de Dieu est sanctifié quand nous faisons nôtres les paroles de Paul. Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 6, 14. Son nom est sanctifié lorsque nous l'adorons en esprit et en vérité. Finalement, son nom est sanctifié lorsque la sainteté divine se manifeste dans notre vie, malgré nos limites. Lorsque nos pensées, nos sentiments, nos actes reflètent le caractère de Dieu tel qu'il s'est révélé en Christ. Je le relis. Finalement, son nom est sanctifié lorsque la sainteté divine se manifeste dans notre vie, malgré nos limites. Lorsque nos pensées, nos sentiments, nos actes reflètent le caractère de Dieu tel qu'il s'est révélé en Christ. Deuxième requête, que ton règne vienne. Seulement quatre mots, mais qui ont une portée considérable. En étroite relation avec la première de ces requêtes. En effet, l'avènement du royaume de Dieu est l'une des façons dont le nom de Dieu sera sanctifié ou est sanctifié. Vous avez remarqué que ce règne est attribué à Dieu le Père. Un mot sur le fait que ce règne est attribué à Dieu, alors que le titre de roi est toujours attribué à Jésus, comme nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse. José Martinez, dans son livre sur la pratique de la prière, note que, sans aucun doute, le Seigneur Jésus-Christ a voulu confirmer le lien existant dans le judaïsme entre deux concepts, tels qu'il était exprimé dans le culte à la synagogue. Dans le tefila, c'est-à-dire la prière par excellence, le mot hébreu, ça veut dire tefila, signifie « s'auto-évaluer ». C'est leur prière, nous trouvons les phrases suivantes. « Fais-nous revenir, ô notre Père, à ta loi, et mets-nous, ô roi, à ton service. Pardonne-nous, Père, car nous avons péché. Pardonne-nous, notre roi, car nous avons transgressé. » Jésus fit plus que ratifier simplement deux expressions liturgiques appropriées. Si nous tenons compte de l'importance qu'il a accordée au royaume de Dieu dans sa prédication, nous en déduisons qu'il a évoqué dans le Notre Père pour pousser les disciples à réfléchir sur le sens et les implications de l'avènement du royaume. Jésus a consacré une grande importance au royaume de Dieu, ou parfois le royaume des cieux, dans sa prédication. Comme à ses disciples, Jésus nous invite à réfléchir sur le sens et les implications de ce royaume. Pour de nombreux croyants, le royaume des cieux, c'est le ciel lui-même. Quand on meurt, on y va, ou quand le Seigneur reviendra. Mais il y a d'autres interprétations eschatologiques. On n'y rentrera pas ce matin. Quel est l'enseignement de l'Écriture au sujet du royaume de Dieu ? La révélation biblique nous montre clairement que le royaume correspond au gouvernement de Dieu. C'est la manifestation de son autorité et de sa souveraineté en tout et sur tous, telles qu'elles sont déjà affirmées dans l'Ancien Testament. Psaume 24, verset 1, « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui y habite. » Psaume 93, verset 1 et 2, « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Ton trône est établi depuis longtemps, tu existes de toute éternité. » Le psaume 103, verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. » Si la révélation biblique est claire, ce que nous observons nous interroge, non ? Dieu règne-t-il vraiment ? L'idée d'un Dieu souverain dans notre monde perverti par le péché sous toutes ses formes nous interpelle pour le moins. Depuis que le péché est entré dans le monde, la majesté de Dieu a été méprisée. L'homme a essayé d'usurper sa seigneurie, a voulu être son propre Dieu, son propre maître. Il a vécu en rébellion ouverte contre son Créateur, malgré les terribles conséquences. Aujourd'hui, l'humanité vit sous l'influence de Satan, le prince de ce monde. Mais cela n'exclut pas la souveraineté de Dieu, qui a livré l'humanité aux conséquences inévitables de sa rébellion. Dieu exerce sa colère contre les hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Ils sont inexcusables. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur. Et comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes, bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, c'est-à-dire la mort. C'est ce que Paul rappelle au chapitre 1 des Romains, que je vous invite à relire en entier. Ainsi, malgré les apparences, Dieu règne, et le monde est sous son contrôle. Nous l'avons vu récemment aussi avec l'étude du prophète Habacuc. En Jésus, se sont accomplies les promesses du royaume messianique, annoncées dans l'Ancien Testament. L'œuvre rédemptrice du Christ Jésus est définitivement insérée dans l'histoire. C'est le point central de l'histoire. Le royaume est arrivé, il n'en est qu'à son commencement. Le prince de ce monde sera définitivement vaincu. Lorsque les pharisiens interrogent Jésus sur la venue du royaume, il leur répond « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Luc 17, 21. L'apôtre Paul déclare que le royaume de Dieu, c'est la justice et la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice par l'œuvre rédemptrice du Christ Jésus, la paix parce que nous avons été justifiés par la foi, la joie du salut pour notre âme qui nous réjouit d'une joie ineffable et glorieuse, comme dit l'apôtre Pierre. 1 Pierre 1, 8. faisant de nous des citoyens du royaume de Dieu qui seront invités au festin des noces de l'agneau. Ce que nous lisons aussi dans Apocalypse 19, verset 7. Et même si les circonstances de la vie sont douloureuses, nous avons cette espérance qui nous transporte. Et comme le dit l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, verset 18, les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Et même dans les circonstances les plus adverses et douloureuses, le croyant peut se réjouir d'une joie ineffable et glorieuse, comme nous venons de le lire. Cette joie est une réalité qui anticipe la pleine manifestation du royaume de Dieu quand le Christ reviendra et établira son règne où la justice et la paix habiteront. Quelques flashs de la description de l'Apocalypse de Jean, révélation de l'ange du Seigneur qui dépeint le royaume de Dieu tel qu'il sera. Un règne glorieux qui a commencé, mais qui est encore à venir. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. Il règnera au siècle des siècles. » Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Nous te remercions, Seigneur Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. » Apocalypse 19, verset 5. Une voix sortit du trône et dit, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait « Alléluia !» Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Serons-nous heureux d'être invité au festin de l'noce de l'agneau. Apocalypse 21. J'entendis une voix forte venant du ciel et qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Cette perspective est merveilleuse et glorieuse, n'est-ce pas? Alors oui, demandons à Dieu que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Lorsque nous disons que ton règne vienne, nous pensons naturellement à la seconde venue du Christ, Jésus, qui établira son règne glorieux, mais nous devons immédiatement penser et prier en même temps que ton règne vienne dans ma vie. Laissez Dieu régner en nous. C'est admettre une perte de notre souveraineté. Un abandon du moi, et ceci dans tous les domaines de notre vie, tels que l'Évangile nous les expose depuis le sermon sur la montagne jusqu'à la croix. Dieu ne peut régner en nous que si nous laissons l'Esprit régner en nous. Et cet Esprit, nous en avons le fruit que décrit l'apôtre Paul dans Galates 5, 22. L'éthique chrétienne s'adresse à un peuple racheté. Elle repose sur deux piliers. D'un côté, sur l'œuvre de Dieu, ce qu'il a fait. De l'autre, sur ce que Dieu nous demande. Dieu m'a sauvé et pardonné. Il a fait de moi son enfant et m'a donné sa parole et son esprit. Je dois vivre en obéissant à sa parole. Je dois aimer mon prochain parce que Dieu m'aime moi. Laissons-nous transformer par le Saint-Esprit pour que Dieu règne dans nos vies. Et prions que ton règne vienne. Viens et règne en moi. Amen.